des livres RMC, Fred Hermel.
A-t-on le droit de fermer un livre qui ne plaît pas ? Pour certains, c'est un sacrilège, un manque de respect pour l'auteur. Je pense pour ma part que s'il y a un domaine où il ne faut pas se faire souffrir, c'est bien la littérature. Liberté, liberté chérie. En général, je me laisse environ 50 pages, ou plutôt je laisse 50 pages à l'auteur pour me séduire et me convaincre d'aller jusqu'au bout. Mais si la magie n'opère pas, eh bien tant pis, je passe à autre chose. Il y a suffisamment de merveilles à lire pour ne pas perdre son temps avec un bouquin qui vous tombe des mains. Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans le 7e épisode du podcast littéraire de RMC, auquel je vous invite respectueusement à vous abonner. C'est une histoire très banale. Une mamie qui fait un accident vasculaire cérébral lors d'un repas en famille. Mais quand c'est une romancière comme Géraldine Maillet qui le raconte, cela prend tout de suite une autre dimension. Ma minuscule vient de paraître chez HarperCollins. Bonjour Géraldine Maillet.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes romancière, réalisatrice, chroniqueuse télé et même ancien mannequin. Mais là, c'est surtout la petite fille de Mamie Tetti que je reçois. Est-ce que je me trompe ?
Absolument, c'est sans doute mon activité la plus importante.
Alors tout part d'un événement, un dimanche de janvier. Que se passe-t-il ?
On est un dimanche en famille, un déjeuner. Je vais chercher souvent ma grand-mère le dimanche pour déjeuner avec elle, pour l'amener avec nous dans notre esprit festif de famille. Et effectivement, ce jour-là, ma grand-mère a un AVC. Je ne sais pas tout de suite qu'elle a un AVC. Disons que sa tête part en arrière, ses yeux se ferment, son visage dégouline d'un côté. Elle devient totalement aphasique, elle pousse des sortes de râles. Et là, je me dis que c'est très grave. Et que même si elle a 92 ans, je dois être effectivement efficace, utile, je dois l'aider, je dois être la plus épatante comme elle a été épatante avec moi pendant toute sa vie. Donc j'appelle les pompiers, je suis entourée. Et c'est bizarre, Frédéric, parce qu'en fait, quand moi, je me souviens de ce moment-là, il est gravé dans mon esprit comme je pourrais en faire un séquencier, minute par minute, seconde par seconde, je sais exactement ce qui se passe. J'appelle les pompiers, ça dure 10 minutes entre le moment où je les appelle et où ils arrivent. Et ces 10 minutes, à la fois, durent une seconde et une éternité. Et je me souviens de tout au millimètre. Je me souviens des odeurs des uns, des autres, du visage des pompiers, de leurs gestes, de ce qu'ils me disent, de ce qu'ils me demandent. Et pendant tout ce moment-là, je me dis, oh, est-ce qu'ils vont la sauver ? Est-ce qu'on sauve une femme de 92 ans aujourd'hui en France ? Est-ce qu'ils vont être extrêmement précautionneux ? Est-ce qu'ils vont tout faire pour ma grand-mère ? Et au même moment, dans la même phrase, je me dis « Et est-ce qu'il va falloir la sauver ? Est-ce que c'est une bonne chose de sauver une femme de 92 ans ? Comment on va la récupérer ? Comment on va la retrouver ?»
Tout ça en quelques secondes dans votre tête.
Oui, c'est une telle déflagration, c'était un tel choc. Tout défile, la vie de ma grand-mère défile, sa beauté, sa splendeur, son charisme, son humour, tout ce qu'elle sait faire. Et là, je la vois complètement diminuée, complètement... Enfin, dans un monde parallèle, dans un monde qui n'est déjà plus le mien, alors que 10 minutes avant, elle était dans mon monde. Elle mangeait avec moi des lasagnes, elle parlait de Michel Drucker. Et ça, c'était son monde, même si c'était un monde d'une femme de 92 ans. Et là, je réalise que plus jamais rien ne sera comme avant avec ma grand-mère et qu'on va devoir redistribuer les cartes familiales, les cartes intimes de notre relation entre ma grand-mère et moi.
Alors, vous êtes une femme connue, habituée aux lumières de la télévision, des flashs. On l'a dit, vous avez été mannequin. Et là, votre vie bascule dans autre chose, un autre univers, le monde médical.
Le monde médical, je le connais parce que ma maman est médecin. Et donc, j'ai toujours connu un petit peu ce monde médical. Mais c'était un monde distancié. C'était un monde qui n'était pas le mien. C'était, on va dire, un peu par procuration. Et là, effectivement, je me dois, et c'est ce que je raconte dans le livre, je me dois d'accompagner ma grand-mère qui m'a accompagnée, qui a été une sorte de seconde maman, qui était donc justement plus du tout une minuscule, mais une majuscule pour moi, une femme incroyable, résiliente, courageuse et très empathique. Et en fait, je ne dois pas l'abandonner. Donc, je ne dois pas l'abandonner quand elle part avec les pompiers, je ne dois pas l'abandonner quand elle part dans le couloir des urgences de Corbeil-Essonne, je ne dois pas l'abandonner quand elle est dans le couloir des soins intensifs dans une chambre extrêmement moderne et médicalisée, je ne dois pas l'abandonner quand l'interne me parle. En fait, j'ai une sorte de responsabilité, je suis une sorte de tuteur légal de ma grand-mère qui, à ce moment-là, suite à cet AVC, ne s'appartient plus. Et d'ailleurs, l'avenir nous dira qu'elle ne s'appartiendra plus jamais, puisqu'à partir de ce moment-là, c'est une sorte de rouleau compresseur de médecins, de neurologues, d'internes, de kinés, de diététiciens, d'orthophonistes qui nous diront que au fur et à mesure, plus jamais elle ne redeviendra ma mamie Téti.
Vous découvrez des mots qui inquiètent et qu'on ne connaît pas toujours, les mots médicaux qui sont loin d'être des mots de la littérature.
C'est vrai,
quoi.
Oui.
Là, et là, c'est...
Sauf chez Houellebecq, mais bon.
Oui, voilà. Oui. Mais c'est vrai que c'est compliqué, en fait. Et là, tous les gens qui nous écoutent vont comprendre. Quoi. Il y a des médecins qui vous disent des mots et en fait, ce sont des mots qui font peur, finalement, parce qu'ils sont inconnus.
En fait, c'est un vocabulaire étranger. C'est un vocabulaire où on est un peu spectateur de ce qu'on nous dit. On croit sur parole ce qu'on nous dit aussi. Et en fait, moi, j'ai voulu faire ce livre, je crois très précisément, quand j'étais dans ce couloir des soins intensifs de Corbeil-Essonne, en neurochir, au quatrième étage, je me souviendrai toujours, département T, voilà. Et dans ce couloir-là, je marche, et à la fois, on est très pudique, on ne veut pas regarder ce qui se passe dans les chambres, à côté de ma grand-mère de 92 ans, je le répète. Donc en fait, ma grand-mère, ce n'est pas un scandale. C'est-à-dire, ce n'est pas un scandale d'État si elle meurt et si elle disparaît. Évidemment, moi, c'est une peine insurmontable, mais c'est dans l'ordre des choses. Et dans ce couloir de Corbeil-Essonne, je vois des jeunes, des très jeunes. Je vois des femmes, je vois des maigres, des gros. Je vois tout. En fait, c'est la loterie. Et je me dis, en fait, ce que je vais raconter, en fait, je veux raconter une histoire totalement personnelle et intime, mais qui est totalement universelle, puisqu'il y a plus de 150 000 AVC en France chaque année. Et j'ai voulu m'emparer de ce sujet parce que j'avais l'impression que finalement, tout le monde était concerné. Tout le monde avait un avant et un après avec quelqu'un de cher, quelqu'un de très important. Et j'ai voulu raconter cette histoire parce que aussi, vous l'avez dit Fred, ces termes qu'on ne comprend pas, ils m'ont été dits par des gens, par des soignants, par des blouses blanches, par des gens que je ne connaissais pas une heure avant et qui ont été des pierres à l'édifice pour guérir et pour soigner ma grand-mère. Parce qu'en fait, moi, vous avez dit, je travaille dans une émission aussi assez connue où effectivement, on parle souvent et aujourd'hui aussi, par exemple sur RMC, quand je vous écoute tous les jours dans les émissions, on dit que rien ne fonctionne. On dit qu'on meurt aux urgences. Mmh. On dit que on maltraite les gens dans les EHPAD. Et je ne suis pas dans un déni. Je sais que ça se passe aussi comme ça, mais ça ne se passe pas que comme ça. Et moi, j'ai vu tout le contraire. C'est-à-dire, j'ai vu des soignants incroyables. J'ai vu un pompier faire tout pour ma grand-mère de 92 ans, comme si elle en avait 20, comme si elle avait l'avenir devant elle. J'ai vu des urgences, certes, complètement pleines à ras-bord, complètement saturées.
Mais avec des gens de bonne volonté.
Mais avec des gens qui font tout.
On va en parler. Parce
voilà.
Qu'on fait
c'est tout ça que j'ai voulu faire aussi.
Mais justement, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre très beau livre, on connaît, vous avez écrit des dizaines de romans, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le fait de dire, voilà, je suis une personne connue, mais là, je suis la petite fille comme n'importe... Tout le monde se reconnaît, en fait. Voilà, parce que ce qui est arrivé à votre grand-mère arrive à plein de grand-mères et de grands-pères, et les gens se disent, ah oui, il y a quelqu'un qui porte ma voix, finalement. Quelqu'un qui raconte ce que moi, j'ai vécu avec une personne que j'aime, mais que je ne sais pas expliquer, parce que vous avez la chance d'être écrivain et donc de pouvoir exprimer ces choses-là. Avez-vous senti quand même comme une sorte de mission de raconter ce que les gens voient et ne peuvent pas forcément raconter ?
Oui, une mission, c'était aussi pour moi une manière aussi de me défouler parce que quand j'allais dans les... j'allais la voir tous les jours, je ne voulais pas l'abandonner. J'avais l'impression que si je l'abandonnais, elle allait crever et je me suis dit, oh, je ne peux pas. En fait, c'est un moment, je dois la tenir, quoi. Je dois la tenir à bout de bras. Donc, je pense que voilà, les gens qui nous écoutent le sentent, ça, qu'on a une responsabilité qui est mêlée d'ailleurs. Il y a une sorte de culpabilité, de responsabilité. Si on y va, parfois, on a la flemme. On se dit, oh, flemme, pourquoi j'y vais ?
Oui, parce que toute votre vie... D'ailleurs, votre livre, vous osez reconnaître ça.
Mais oui, bien sûr.
En disant, pardon mamie, mais j'ai pas envie d'y aller, quoi.
J'ai pas envie d'y aller. Elle est à moitié endormie. Elle me parle même pas. Je la trouve extrêmement pas reconnaissante. Elle me dit jamais merci. Elle ne s'intéresse plus à moi puisque dans son monde, son nouveau monde à elle, en fait, ma vie à moi n'existe pas. Donc je trouve que c'est ingrat. Mais cette ingratitude, en fait, je dois la balayer. Je ne dois pas la juger. Et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire que je dois être extrêmement bienveillante avec ce nouveau monde à elle. Je dois en accepter les nouveaux codes, les nouveaux critères. Je dois accepter son rythme. Et si, quand j'arrive après une heure et demie de route, elle dort, et je dois respecter ce sommeil-là. Et donc voilà, c'est tout ça que j'ai voulu raconter.
Vous expliquez aussi, parce que bon, votre grand-mère, après les urgences, l'hôpital, elle doit être placée, comme on dit.
Ouais.
Et vous expliquez toute la difficulté de trouver un établissement pas trop loin de chez vous et même la nécessité de faire un peu de piston, quoi. Parce que voilà, il faut,
ouais.
faut faire intervenir des gens, quoi, pour essayer de trouver une place. Et c'est très, très compliqué, là.
Bah, on n'en a pas eu du coup. Et puis, de toute façon, en fait, c'est compliqué parce que quand... à la fois on veut sauver, moi je veux à la fois sauver ma grand-mère et faire tout pour elle, mais je trouve que les gens à qui j'ai les assistantes sociales, les médecins, les directeurs d'établissement de l'EHPAD où elle était en Essonne, près de l'hôpital où elle a été soignée avec thrombolyse et scanner, en fait je les trouve tellement compétents, je les trouve tellement à l'écoute, je trouve qu'ils font tout et qu'en fait on n'a même pas besoin de... Enfin voilà, et puis en plus elle a même pas mon nom, on est masqué. Enfin je veux dire, il y a personne ne sait qui je suis. Puis voilà, je suis pas Beyoncé, donc il y a pas non plus de quoi couper pas les encore. Fils définitivement. Mais en fait, le plus dur, c'est à partir du moment où il y a un AVC et ceux qui nous écoutent le savent, on sait que le monde de ma grand-mère ne sera plus jamais le même. Et donc en fait, on doit tout réorganiser. On doit organiser son nouveau monde. On sait qu'elle ne reviendra plus jamais dans son appartement. On sait qu'elle n'utilisera plus jamais son carnet de chèques. On sait qu'elle ne regardera plus jamais son agenda, qu'elle n'aura plus de rendez-vous, qu'elle ne prendra plus de rendez-vous pour elle. On sait qu'elle ne décrochera plus jamais son téléphone. On sait que la télévision, ce sera une sorte d'objet un peu bizarre, avec du bruit, de la lumière, de la fureur. Ça la distrait. Voilà, elle sera peut-être distraite par ça, mais elle n'aura pas de volonté de changer de chaîne pour voir tel ou tel programme. Elle ne sait plus qui est Michel Drucker. Dans le monde de ma grand-mère, ne plus savoir qui est Michel Drucker, c'est un panthéon. Donc c'est quand même une sacrée déflagration. Et donc, nous, en tant qu'accompagnants, en tant que famille, on doit réorganiser tout ça et l'accepter. Donc, c'est le branle-bas de combat pour la mise sous tutelle, le branle-bas de combat pour vendre l'appartement, le branle-bas de combat pour ben, voilà, comment on organise tout, les impôts, les factures, résilier la ligne de téléphone. Bon, c'est des choses qui sont dérisoires, mais c'est une année administrative de choses à remplir. Et voilà, on est broyé par ça. Voilà, on doit tout réorganiser la vie de ma grand-mère. En fait, elle devient une sorte de fœtus, un peu inutile, où il n'est que question de changer sa couche, de la faire manger, de la doucher. Et nous, on l'accompagne là-dedans avec générosité, en s'émerveillant de quand elle nous fait un sourire.
Vous révélez que votre maman, qui est médecin, est malentendante.
Oui.
Parce que vous parlez de votre grand-mère, mais vous parlez aussi de votre mère, est-ce que c'était aussi une manière de montrer au public la personne intime que vous êtes derrière la personne d'écrivain, la mannequin, la femme
de télé ? La personne superficielle et hautaine ?
Non, je ne me permettrai pas de dire mais l'image, vous êtes dans une émission très connue, connue, etc. Vous savez très bien tout ce qu'on dit sur TPMP, etc.
Oui.
Et aussi le rôle que vous jouez aussi.
Ah, je ne joue pas de rôle.
Non, mais le rôle de la sincérité, je veux dire. Mais pour les gens,
Merci Fred, vous êtes rattrapé au dernier
moment.
Non, mais
parce que dans l'émission, il y a plein de gens avec des personnalités très différentes.
Oui.
On sait très bien que tout ça est organisé. Pour
comme
les
un
gens...
dîner de famille.
Exactement, il y a des gens très différents. Donc vous avez votre rôle. Je n'ai pas dit vous jouez un rôle, vous avez votre rôle.
En tout cas, j'ai ma liberté de penser.
Voilà, mais vous avez votre personnalité. Oui. Donc, les gens se font une image de qui vous êtes. Est-ce que c'était aussi une manière, quelque part, de parler un petit peu de vous à travers votre mère et votre grand-mère en disant, voilà, je fais de la télé, mais en fait, je vis les problèmes des gens, en fait. Voilà, c'est...
Moi, quand j'ai pas trop de la vision de la littérature, donneuse de leçons et tout ça, donc il s'agit du partage, là. Voilà, c'est plus une sorte de... En fait, je trouve qu'il y a, face à la maladie, face à la dégradation, face au grand âge, il y a une sorte d'horizontalité. On est tous égaux. Et comme on peut se féliciter que les gens vieillissent, forcément, les gens ne vont pas forcément vieillir en bonne santé. Et ma maman, moi, m'a toujours dit que c'était une bombe à retardement, le quatrième âge. Parce que, voilà, on n'arrête pas de parler des problèmes de retraite, des problèmes du trou de la sécurité sociale et tout ça, mais on ne se rend pas compte à quel point ça va être le grand combat des prochaines années, de comment on va s'occuper de nos vieux, comment on va les accompagner, comment on va les aider, comment on va les soulager. Voilà, toute la fin de vie, c'est quoi la fin de vie ? On n'est pas d'accord dans les familles. C'est pour ça que je voulais mettre aussi ma maman dans le livre, parce que ma maman est médecin. Et très vite, quand elle arrive aux soins intensifs de Corbeil-Essonne, elle sait ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'elle, elle anticipe tout ce qui va se passer dans l'année après. Moi, non. Moi, je suis au jour le jour. Moi, c'est un carnet de bord. Moi, j'ai de l'espoir. Moi, je dis, mais non, mais ma grand-mère, elle va remarcher. Mais non, ma grand-mère, elle va revenir chez elle. En fait, c'est même pas un déni. C'est que je ne me rends pas compte. Ma maman a déjà toutes les cartes en main de ce qui va se passer. C'est implacable. Et donc, elle sait que ça va être tellement compliqué à gérer.
Alors, parlons un petit peu des soignants. Vous leur consacrez des portraits très touchants. Il y a, je crois, une quinzaine de portraits. Ouais. Et à part, c'est vraiment très bien organisé. Pourquoi avoir choisi, dans l'histoire de votre grand-mère, de parler de l'histoire de chacun des soignants qui se sont succédés dans l'aventure que vit votre grand-mère et que vivez vous et votre famille ?
Parce qu'en fait, ils sont invisibles. Ils sont invisibles au près de la société, ils sont invisibles pour ma grand-mère. Parce qu'on les a beaucoup applaudis il y a 4 ans. Et en fait, quand on parle d'eux aujourd'hui, c'est pour dire qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et parce qu'il y a une sorte de ronde de chaîne humaine vers ma grand-mère, incroyable, mais avec pas mal d'ingratitude, puisque ma grand-mère était incapable de leur dire merci, de les reconnaître, d'être reconnaissante. Et donc moi, je voulais absolument savoir qui était Romain, le premier sapeur-pompier qui est venu au secours de ma grand-mère. J'ai voulu savoir qui était le premier brancardier qui l'a amené d'une chambre de soins intensifs à sa nouvelle chambre. J'ai voulu savoir qui était Mathieu, Solène, Gaëtan, Irma, les orthophonistes, les kinés. Sorte de chaîne comme ça d'anonymes, les visibiliser. Savoir pourquoi ils avaient choisi la gériatrie. C'est pas faute de mieux. À chaque fois, c'est une passion, c'est une vocation. Ils veulent vraiment s'occuper de nos très vieux. Ils font un travail incroyable pour peu d'argent. Mais encore une fois, ils n'étaient pas dans un truc militant quand je les ai rencontrés. D'abord, ils n'ont pas voulu répondre tout de suite. Ils étaient parano. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'elle va nous prendre ?
Oui, et vous expliquez pour chaque portrait comment vous avez réussi à contacter la personne après, parce que parfois, c'était plusieurs mois plus tard.
Bah, hein. Oui, bien sûr.
Plusieurs mois plus tard. Parce que quand vous commencez à écrire... Mais ils se souvenaient de votre grand-mère, en fait.
En fait, au départ, pas tous, hein, parce que pour moi, c'était essentiel. C'est-à-dire que je pouvais faire un portrait robot très précis de mon brancardier, de mon pompier, tout ça. Et pour eux, le pompier Romain, il m'a dit, mais moi, ce jour-là, j'ai dû faire 50 interventions. Donc après, il s'en est vaguement souvenu. Et c'était marrant d'avoir ce sort de champ contre champ si différente, en fait, entre quelqu'un de fondamental pour moi. Et puis, pour lui, il m'a dit, mais nous, on ne nous dit jamais merci. On ne nous dit jamais quand ça fonctionne. On ne nous dit jamais quand on a été efficace. Et donc, au départ, ils étaient parano parce qu'ils se sont dit, elle est en train de pondre un truc ou à charge. Ben non, pas du tout. Je les ai rassurés. Je leur ai dit, non, moi, je veux faire une déclaration d'amour à ce que vous faites.
Et de remerciements. Et des lettres de remerciements, j'ai l'impression.
Et voilà, j'étais tellement reconnaissante de ce qu'ils avaient fait. Et vous savez, Fred, à aucun moment, ils m'ont dit qu'ils avaient pas, ils gagnaient pas assez leur vie.
Alors, parce que pour chaque soignant, vous donnez le salaire.
Ils m'ont dit combien ils gagnaient.
Et ce n'est pas beaucoup, hein.
C'est à chaque fois, je trouve que c'est scandaleusement petit.
Je vois par exemple là, Laure, 57 ans. Bon, vous la décrivez, vous dites elle est Sagittaire, ascendant Capricorne. Avec les heures supplémentaires, son salaire est de 2200 euros net par mois.
Oui, c'est une aide-soignante incroyable.
Avec les primes et tout ça.
Une des préférées de ma grand-mère à Sainte-Périne, Laure, qui était incroyable. Et voilà, c'était elle. Ma grand-mère adorait que, typiquement, Laure changeait la couche de ma grand-mère 3 fois par jour. Quelque chose que moi-même, je n'aurais pas fait. Mais ce n'est pas ça qu'ils m'ont dit, Fred. Ils m'ont dit, nous, on veut de l'humain. Nous, on a des familles qui ne nous disent pas bonjour. Alors, sous prétexte qu'il y a des vieux qui ne les reconnaissent pas et qui ne leur disent pas bonjour et merci, on a des familles. Le plus problématique dans les EHPAD, il faut le savoir, ce sont les familles qui sont violentes. Il y a des écriteaux dans les EHPAD, avec les portes fermées à clé des soignants. Parce qu'on les injure. Parce que voilà, c'est l'ensauvagement de la société aussi au niveau des soignants. C'est-à-dire qu'on leur parle mal, on ne leur dit pas merci, on n'est pas reconnaissant. Et en fait, je pense qu'il faut. C'est un cercle vertueux. Si on réinjecte de l'humain, c'est-à-dire que quand moi j'ai apporté des chouquettes pour ma grand-mère, j'en ai apporté aussi pour Gaëtan et Irma. C'est pas ça le sujet. Et vous, comment ça va aujourd'hui? Comment ça se passe? Vous avez petite mine, ça va pas? Vous avez passé des bonnes vacances? Et les enfants, ça va? En fait, voilà, c'est des gens qui sont tellement aidants pour ma grand-mère, tellement humains pour ma grand-mère. Que si moi, en tant que famille, je réinjecte pas de l'humain, il va y avoir un vrai problème.
Alors, vous avez écrit de nombreux romans, vous inventiez des vies, vous racontiez celles des autres, comme Fran et Ava, qui était le précédent que j'avais beaucoup aimé, paru chez Fayard. Mais là, c'est la vôtre, c'est votre histoire. Est-ce qu'il est plus dur d'être dans ce que moi, j'aime appeler les saveurs autobiographiques ?
Oui, il y a un truc un peu... des nappes phréatiques comme ça. Mais moi, je pense que dans tous les romans, c'est Philippe Besson qui me disait ça, d'ailleurs. Il dit que en fait les romanciers racontent toujours le même roman et que en fait il y a juste des biais et des points de vue différents et que quand je parle de l'histoire d'amour entre François Sagan et Ava Gardner ou la mort de Nathalie Wood, alors et je parle de thématiques, de thèmes qui m'obsèdent, de destin fracassé, de sortie de route, de bande d'arrêt d'urgence, de c'est quoi vieillir quand on est une femme, c'est quoi la dépendance, c'est quoi de se dégrader physiquement. Alors évidemment là je l'aborde frontalement avec ma grand-mère, avec quelque chose d'intime, quelque chose de l'ordre du corps, de l'odeur de ma grand-mère. Mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes livres qu'on fait finalement avec des axes différents et on se planque derrière des personnages, on se planque derrière des playlists. Vous en savez quelque chose, chaque livre a sa playlist. Mais certainement, évidemment, là j'ai mis beaucoup plus de moi.
C'est le moment de passer à un peu de lecture. « Comme à chaque épisode, j'ai choisi pour l'invité un extrait de son livre. Pouvez-vous nous lire, Géraldine, la page 61 ?
Le lino rose pâle, les murs assortis, un long couloir. Ne pas regarder dans les autres chambres, rester concentré. Se contenter de son propre parcours de souffrance, ne pas engranger d'autres informations. Pourtant, je ne peux pas m'en empêcher. Je glisse un œil à droite, à gauche. Je laisse l'empathie et la curiosité m'envahir, combattre le dégoût. Mathilde me serre la main à chaque fois qu'on passe devant un nouveau lit. Tous les résidents me semblent infiniment vieux et diminués. Elle sera comment, notre mamie, par rapport à toutes ces épaves post-AVC, fringantes, plus supportables pour notre petit confort visuel qui déteste la déchéance et la projection de notre propre vieillesse? Elle sentira bon au moins? Pitié, promettez-moi qu'elle n'aura pas perdu ça dans la bataille.
Elle sentira bon au moins, pitié, promettez-moi qu'elle n'aura pas perdu ça dans la bataille. À qui dites-vous pitié ? À Dieu ? Ouf. Ou aux médecins qui, dans ces cas-là, sont quand même des demi-dieux ?
Oui, je crois beaucoup plus en l'aide-soignante Dieu qu'à Dieu dans ces cas-là. Parce que ma grand-mère était tellement coquette que j'avais peur que l'AVC enlève en plus ça d'elle. Quoi. Et effectivement, je parle beaucoup d'odeur dans le livre. C'est un roman olfactif. Parce que voilà, pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui savent, quand on va dans les EHPAD, y a une odeur qui nous agresse, l'odeur de la vieillesse, l'odeur du grand âge, de la déchéance. Et c'est très dur, c'est très insupportable. Et en même temps, je la parfume beaucoup.
Il y a quelque chose qui revient tout au long de ce récit roman et qui me semble essentiel parce qu'elle imprime un rythme. Votre grand-mère demande sans cesse « Quelle heure il est ?»
C'est vrai.
Mais des dizaines de fois à chaque fois, parce qu'à chaque fois que vous la voyez, elle vous pose la même question. On sait, c'est Alzheimer, là.
Oui, ouais. Oui, c'est Alzheimer. Et puis surtout, elle a une grande montre devant elle, une horloge devant elle. Et voilà. Alors moi, j'ai tendance à lui répondre avec beaucoup d'empathie, de douceur. Je suis très maternelle avec ma grand-mère. Et ma fille lui dit, mais en fait, tu l'as déjà demandé il y a 5 minutes. Et c'est très bien parce que ma fille, justement, m'apporte un décalage de l'humour noir, du trash avec ma grand-mère. Et il faut rire avec nos vieux. Parce que là, on est très grave et solennel. Mais dans le livre aussi...
On va en parler de l'humour. Mais voilà. Oui, bien sûr qu'il y a de l'humour. À quel moment vous êtes-vous rendu compte que votre grand-mère est devenue minuscule ?
Très vite. Très vite. Franchement, ouais. Quand elle est dans ce petit lit, cet immense lit, avec son tout petit corps, dans les soins intensifs... Et qu'elle ne me parle que des lasagnes qu'elle a mangées à midi en disant « Tu les as mis où ? Tu les as mis où les lasagnes ? Tu les as mis où les lasagnes ?»
Les lasagnes du jour de l'AVC.
Du jour de l'AVC. Et que son corps se lyophilise en direct, en fait, se rétrécit en direct. Et j'ai l'impression qu'en fait, elle quitte son enveloppe corporelle qu'elle avait, très coquette, un peu poseuse, assez séductrice et tout. Et qu'il n'est plus jamais, il ne sera plus jamais question de ça dans sa vie.
Moi, j'ai été très touché par cette fragilité, comme beaucoup de lecteurs, hein, parce que j'ai connu ça avec mon grand-père maternel, Gustave, à qui je donnais à boire de l'eau à la petite cuillère. Ouais. Et cela restera, je pense, l'un des plus beaux moments de ma vie. Je me souviens de lui avoir dit « Tu l'as fait pour moi maintenant, c'est à mon tour de le faire pour toi, papy. » C'est le cours de l'existence, hein, il y a une certaine beauté dans ce retournement des situations, en fait.
C'est une beauté. En fait, c'est une beauté qu'on trouve détestable. En fait, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que moi, je suis tellement heureuse que ma grand-mère soit encore de ce monde. Et je sais que dans les familles, on n'est pas tous d'accord. C'est-à-dire que moi, il y a des gens dans ma famille qui m'ont dit « Mais si tu n'avais pas été là ce jour-là, le jour de l'AVC, elle ne serait plus de ce monde. » Et en fait, les deux positions s'entrechoquent, se défendent et s'acceptent. Et moi, je suis contente de donner à manger des petits morceaux de chocolat à ma grand-mère aujourd'hui. Et il y a des gens dans ma famille pour qui c'est insupportable.
Avez-vous reçu des témoignages de lecteurs qui ont vécu la même chose que vous et qui vous ont remercié, dire, voilà, vous avez mis les mots là.
Beaucoup. Je fais beaucoup de salons du livre. J'ai fait Le Mans, j'étais à Brive, j'étais à Toulon. Enfin, je n'arrête pas. Et c'est vrai que c'est beau d'avoir des... Alors, j'ai les deux. J'ai des gens à qui c'est arrivé, soit des familles, soit des... Voilà. Et beaucoup de soignants qui viennent me dire, enfin, ça n'est pas que les fossoyeurs. Enfin, ça n'est pas que des gens incompétents et maltraitants. Merci pour ça. Merci de nous avoir un petit peu donné une sorte de fierté, avoir un peu redoré notre blason.
Passons à une petite respiration musicale.
Allez.
Alors, je vous ai demandé de sélectionner une chanson. Oui. Quel morceau avez-vous choisi et pourquoi, Géraldine Maillet ?
J'ai choisi Nicoletta, Mamie Blue. C'était la berceuse de mon enfance. Je suis née en 72. Cette chanson, c'est 73. Et ma grand-mère me l'a chantée tout le temps. J'avais du mal à dormir quand j'étais jeune. J'étais plutôt à couche tard. Et je sais que quand ma grand-mère me chantait Mamie Blue de Nicoletta, avec un très beau timbre de voix, c'était quelque chose qui était extrêmement efficace pour moi, qui me rassurait, qui m'apaisait. Et c'est vraiment associé à ma grand-mère et à mes souvenirs avec ma grand-mère.
Alors Nicoletta, dans cette chanson, rend hommage à sa grand-mère et à sa mère aussi.
Oui, c'est la filiation.
C'est la filiation. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Nicoletta, elle a été une immense star en France dans les années 70-80. Alors ce livre est triste dans plein de moments, mais il y a surtout de la tendresse et il y a aussi beaucoup d'humour.
Oui.
Vous racontez par exemple les commentaires de votre grand-mère sur votre tenue à la télé.
Ah oui, alors là, c'est ma Christina Cordula à moi. Quoi. Parce qu'en fait, elle n'a plus de filtre. Alors d'abord, les soignants m'ont appris à accepter son nouveau monde. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'arrivais avec mon monde, avec mes critères, avec mes valeurs, et je lui imposais ça. Et là, ils m'ont dit non, ça, c'est pas possible. Vous devez donc accepter son nouveau monde à elle. Donc, il vous demande l'heure 300 fois par visite, qui est toujours dans les mêmes rituels, qui a des tocs, qui a peut-être quatre questions qui reviennent. Et puis, le miracle de la télé. Voilà, elle me regarde tous les soirs à la télé. Alors évidemment, elle n'écoute pas, elle ne sait pas de quoi on parle, c'est pas ça. Elle voit vaguement sa petite fille.
Mais elle vous reconnaît.
Elle me reconnaît. Et là, j'ai droit à des commentaires acerbes et cassants sur la tenue, le maquillage, la coiffure, c'est un peloton d'exécution. Rien ne va jamais.
Mais vous le racontez très bien, c'est très drôle. Et ça fait du bien dans cet ouvrage.
Mais c'est tellement bien, mais je la remercie. En fait, pour moi, ça veut dire qu'elle est en vie. C'est-à-dire que plus elle est désagréable avec moi, plus j'estime qu'elle pète le feu en vrai. Donc tout va bien.
Est-ce que Mamie Tétis sait que vous avez fait un livre sur elle?
Oui. Alors,
elle ne peut plus lire aujourd'hui, mais...
Non. Alors, elle a 94 ans. Elle est toujours de ce monde. La vie s'écoule. Elle ne fait pas de progrès, mais depuis que le livre est sorti, ça lui a donné une sorte de cure de jouvence. Alors, c'est très étonnant. Je ne sais pas si on est allé chercher dans un coin de son cerveau, qui est encore un mystère pour moi, ou dans un tiroir, un petit morceau de narcissisme ou d'ego qui fait que, oui, elle se reconnaît sur la couverture. Elle pense qu'elle est toujours comme ça, alors qu'elle n'a plus rien à voir avec ça. On a fait des photos ensemble pour un magazine. Et comme s'il y avait des sortes de résidus, de vieux sédiments de sa vie d'avant qui étaient remontés à la surface et qui lui ont redonné un tout petit peu goût à la vie.
Alors, on a reçu un message sur le répondeur d'RMC. Je vous propose de l'écouter.
Okay. Bonjour Géraldine Maillet. J'ai toujours pensé qu'écrire un livre, c'était une sorte de doute permanent. Est-ce que ce que j'écris est bien? Est-ce que ce que j'écris va intéresser les gens? Est-ce qu'à ce titre, ce livre-là a été un petit peu plus particulier pour vous? Et enfin, question bonus, est-ce que c'est bien d'avoir, un lecteur test dans la vie?
Bon, on l'a reconnu, hein, c'est votre compagnon Daniel Ruelo.
Il a une belle voix de radio quand même.
Ah bah oui, je crois qu'il en fait un petit peu, oui. Daniel, bien sûr, notre collègue et ami ici à RMC. Alors répondez, très bonne question de la part de Daniel.
Alors, oui, pour sa première question. Et oui, effectivement, Daniel a été mon seul lecteur test. C'est-à-dire que je ne pouvais le donner à personne d'autre que lui. C'était beaucoup trop intime, c'était beaucoup trop personnel. Il était à la fois impliqué puisqu'il avait assisté à la veste de ma grand-mère, qu'il la connaît depuis maintenant 10 ans, 11 ans, qui l'aime, mais qui l'aime pas comme quelqu'un de son sang, comme ses parents. Et il a été donc très impliqué parce que ses parents étaient là aussi. Et quand vous voyez, quand vous êtes une personne très âgée, quelqu'un de très âgé faire un AVC devant vous, forcément, nous, en tant qu'enfants, on veut protéger ses parents. Et donc oui, ça a été mon premier lecteur. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance pour la lecture. Je savais qu'il serait dur, qu'il serait intransigeant, qu'il serait, comme il est dans son métier, juste
sans filtre
et honnête. Et donc, je pouvais vraiment lui faire confiance. Et à chaque fois, je sais que je suis vraiment en PLS quand il lit mes livres. Je suis très, très, très fébrile. Je déteste ça. Je trouve qu'il va trop vite, qu'il va pas assez vite. Je suis un peu paniquée. Mais je pense que ça, c'est l'amour qui fait ça. Donc, voilà.
Passons au questionnaire de Fred. Quand écrivez-vous ?
Quand c'est urgent.
Où écrivez-vous ?
Dans la salle à manger et dans des bars d'hôtel.
Avez-vous des superstitions au moment de l'écriture ?
Avoir toujours la même playlist pour chaque ouvrage.
Alors écoutez-vous de la musique quand vous écrivez justement ?
Oui.
Et laquelle ?
J'écrivais que Sinatra pour Fran et Ava, et là j'écoutais que de la musique classique.
Quel livre vous a-t-il le plus marqué enfant ?
Enfant, Les Fantômettes.
Quel est le livre le plus important de votre vie ?
Celui que je n'ai pas encore écrit.
Êtes-vous une adepte de la lecture de plusieurs livres en même temps ?
Non.
Quel livre pourriez-vous recommander à des parents qui veulent donner le goût de la lecture à leur enfant ?
Un livre de sport, un livre de destin de sport. Le livre qui m'a le plus frappé, c'est Open de André Agassi.
Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui n'arrive plus à lire un roman en entier ?
L'écouter. Écouter en audio. Passer par l'oralité pour lire.
Nous allons parler avec un auditeur de RMC, une rubrique que vous retrouvez à chaque épisode de ce podcast, la recommandation de lecture d'une personnalité, d'un libraire ou d'un auditeur. Et aujourd'hui, c'est un fidèle auditeur de RMC qui est venu nous voir dans nos studios. Et attention, hein, pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Jérémy Lopez, comédien, sociétaire, s'il vous plaît, de la Comédie Française. Bonjour Jérémy.
Bonjour Jérémy.
Bonjour, bonjour.
Alors, quel roman voulez-vous nous recommander aujourd'hui ?
Alors, c'est un livre qui s'appelle « Le roman de Jeanne et Nathan » de Clément Camard-Mercier. Et c'est un premier roman. Et pour moi, en fait, en vous entendant parler, j'ai eu envie de rebondir beaucoup de fois parce que c'est un livre qui regroupe un peu tout ce qu'on se dit. C'est pas un livre politique, c'est un livre qui parle de la vie de manière brutale, juste, lucide. J'ai pensé beaucoup au roman de Houellebecq sur l'extrême honnêteté, sur la vision désenchantée de la société. Et aussi, par bribes, et peut-être aussi par l'humour, la naissance de l'amour comme réponse. C'est l'histoire, le roman commence avec deux histoires en parallèle, sur le premier tiers du livre. On suit Jeanne, qui est une actrice pornographique, extrêmement seule, violentée par la vie, extrêmement lucide et intelligente et brillante, et qui subit sa vie. Et à côté de ça, on a Nathan, qui est un professeur de culture, un professeur d'histoire du cinéma à la fac, qui est un homme brillant, seul, désenchanté, lucide, intelligent. Et ces deux personnes qui n'ont rien à voir ont la même souffrance, la même dépendance à la cocaïne. Et en fait, c'est deux personnes, un homme et une femme, qui souffrent et qui vont se retrouver en cure de désintoxication parce qu'ils sont en train de sombrer. Et au moment où ils sont le plus bas dans leur vie, ils se retrouvent à l'hôpital pendant le confinement, le premier confinement. Et en fait, au moment où nous, on s'est enfermés, eux se sont enfermés dans un centre, se sont rencontrés, sont tombés amoureux, follement. Et c'est l'histoire de cet amour qui vient sauver cette vie atroce, cette vie sombre, violente. Voilà, c'est vraiment un...
Rappelez-nous l'auteur et le titre.
Clément Camard-Mercier, c'est son premier livre.
Ouais.
C'est un dramaturge. Je l'ai connu, j'ai eu la chance de le connaître parce que la pièce que je joue en ce moment, Le Suicidé de Nicolas Hermann...
J'allais justement vous poser une question là-dessus sur votre actualité parce que vous êtes le personnage principal d'une pièce de la Comédie Française, donc Le Suicidé...
de Nicolas Hermann, qui est une pièce russe des années 20. Et Clément Camard-Mercier, qui est dramaturge et traducteur et donc auteur, a retraduit cette pièce. Et on s'est rencontrés et à la fin de la première partie des répétitions, il m'a donné son livre. Il m'a dit, voilà, lis ça, j'espère que ça te plaira. Ça fait longtemps que je n'ai pas été remué comme ça par un livre. Ça m'a fait un effet physique extrêmement violent et en même temps, ça ressemble un peu à ce que disait Géraldine, c'est-à-dire que cette violence-là, ces chocs-là, nous montrent qu'on est vivant et fait qu'on a envie de vivre. Je vais vous lire, si vous le permettez, un petit texto que j'ai envoyé à cet auteur juste après avoir lu. Je lui ai dit, après ça, j'ai envie de vivre et de mourir, de me battre et de laisser tomber, de continuer à aimer et détester les gens, et surtout de garder Anna pour longtemps. Donc Anna, c'est ma compagne que j'aime. Et donc, c'est pour moi le but de l'art. Donc ça peut être de la musique, de ce qu'on est en train de parler en ce moment, de bouquins. Ça peut être ce que je fais dans mon métier, monter sur scène ou faire des films. C'est d'avoir envie de vivre et d'aimer. Et je trouve ça sublime. Et de ne pas aimer de façon mièvre et pour le plaisir d'aimer, non. D'aimer comme nécessité et comme survie. Philippe Besson a raison hein, quand il vous a dit qu'il a l'impression d'écrire le même roman. Parce que moi, je pense que je joue la même pièce depuis le début. De manière différente. Ça ne veut pas dire de jouer le même personnage, surtout pas de changer. Mais on raconte la vie. On raconte la vie et la vie, c'est ce qui nous réunit, nous. Et on a tous un peu la même vie. Que ce soit triste ou heureux, que ce soit riche ou pauvre, que ce soit violent ou doux, c'est la vie, quoi. Et c'est ce pourquoi on se parle.
Merci beaucoup, Jérémy Lopez. On vous voit sur scène, hein,
ouais.
Le français, hein, la comédie française.
Ça a eu lieu jusqu'au 2 février.
Oui. Ouais. Le suicidé. Petite recommandation, Géraldine ?
Une petite recommandation. Tu en parles très bien, ce livre. Je vais aller l'acheter parce que je trouve que j'adore, moi, les destins fracassés et les voies parallèles avec des gens qui, au départ, n'ont pas de raison de se rencontrer.
Ouais.
Et finalement, les destins croisés, ça m'a toujours plu, en particulier dans le cinéma. Les films de Paul Thomas Anderson, par exemple. Et je trouve qu'il y a un truc de très cinématographique dans ce que tu as raconté.
Oui, bien sûr. En plus, le personnage est un prof de ciné.
Ah oui.
Le personnage masculin. Donc, en fait, c'est... Et puis, on a une génération cinématographique, quand même. On est là-dedans. Donc, ça commence à se mélanger, ces visions du monde.
Recommandation à petit prix, livre de poche.
Allez.
Tout le bleu du ciel de Mélissa Dacosta, auteure française de best-seller, une jeune femme, beaucoup plus jeune que, alors pas que Jérémy, mais que vous et moi, Fred. Et elle a beaucoup de talent pour décrire les failles humaines et les gens qui ont tout à perdre et qui vont se reconstruire grâce à l'amour.
Pour ma part, aujourd'hui, je vous recommande le nouveau et très beau livre de Pierre Adrian, intitulé « Hôtel Roma ». Il raconte les derniers jours de la vie de l'écrivain italien Cesare Pavese avant son suicide. Alors, vous allez me dire, c'est la collection Blanche de Gallimard, c'est un écrivain qui parle d'un écrivain, ce n'est pas accessible à tout le monde. Eh bien, tout le contraire, parce que comme toujours avec Pierre Adrian, il n'y a aucune barrière à la lecture. Et c'est aussi une magnifique balade dans cette grande ville, magnifique ville de Turin. Alors franchement, c'est passionnant. Hôtel Roma aux éditions Gallimard. C'est déjà la fin du 7e épisode de votre podcast des livres RMC. Merci Géraldine Maillet.
Merci Fred.
À bientôt. On rappelle le titre de votre roman, Ma minuscule, qui vient de paraître cher par Collins. Merci beaucoup Jérémy Lopez. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Alors ce podcast est à écouter et réécouter à toute heure du jour et de la nuit sur rmc.fr et sur l'appli RMC. N'hésitez pas à partager le lien sur les réseaux sociaux, à laisser des notes et des commentaires et surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et on se quitte avec un peu de musique d'Astor Piazzolla et allez, quelques vers de Charles d'Orléans. Ma seule amour, ma joie et ma maîtresse, puisqu'il me faut loin de vous demeurer, je n'ai plus rien à me réconforter qu'un souvenir pour retenir liesse. En allégeant par espoir ma détresse, me conviendra le temps ainsi passé, ma seule amour, ma joie et ma maîtresse, puisqu'il me faut loin de vous demeurer.
Des livres RMC.